Europe 1. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bienvenue à tous et bonjour à vous. À une semaine du premier tour, deux invités pour ce grand rendez-vous présidentiel à partir de 10h30. Nous recevrons le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, soutien de Valérie Pécresse. Mais pour l'heure, on accueille le maire de Béziers, Robert Ménard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Soutien de Marine Le Pen, mais un soutien en toute indépendance. Vous nous l'expliquerez, Robert Ménard. Je salue mes camarades, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Sonia.
Mathieu Bock-Côté, bonjour à vous.
Bonjour.
Mathieu. Alors Marine Le Pen peut-elle gagner? En tous les cas, un vent porteur souffle. Dans les sondages, l'écart au premier tour, on vient de l'entendre dans notre journal, se resserre avec le président sortant. Et au second tour, son réservoir de voix est conséquent. Nous allons en parler, mais tout d'abord Robert Ménard. Hier, ce fut le premier et dernier grand meeting d'Emmanuel Macron, un show conçu un peu à l'américaine. Est-ce que selon vous, le président a retrouvé un peu du feu sacré du candidat?
Il n'a pas été mauvais, honnêtement. Moi, je m'interroge toujours d'abord sur l'utilité de ces grandes messes. Donc, je pense qu'en dehors des militants, et peut-être les journalistes, ça n'intéresse pas grand monde et ça ne change rien. Sur le gigantisme, je ne suis pas sûr que ce soit trop dans l'air du temps. Ouais. Je croyais que les gens, entre la guerre et puis les problèmes de pouvoir d'achat et tout, je ne sais pas, les gens ils doivent se dire qu'est-ce que ça coûte, ce genre de truc. Voilà. Et puis, sur ce qu'il a dit... Que vous dire ? Il défend son programme, il indique un certain nombre de pistes. Moi, ce que je trouve insupportable, c'est plutôt la dernière partie là, sur les extrémismes et tout ça. Attendez, je suis moins républicain que j'allais dire cette droite-là ou cette gauche-là, enfin, que ces gouvernements-là. Je suis moins respectueux des choses. Je suis plus démagogique. Je crois pas. Je crois qu'au lieu de chaque fois qu'il y a un problème dire ou qu'il est porté par la droite de la droite, ce serait l'extrémisme qui avancerait. Je pense qu'ils comprennent rien. Là, vraiment, ils comprennent rien.
On va revenir, Robert Ménard, sur effectivement ce que dit Emmanuel Macron. Le rempart, on connaît l'argument depuis très longtemps face à l'extrême droite. Mais tout d'abord, vous n'êtes pas un opposant systématique ni pavlovien au président de la République. Pourquoi ? Est-ce que c'est de la lucidité de votre part ou est-ce que c'est une part d'habileté pour ne pas insulter l'avenir ? Beaucoup se posent la question.
C'est vous qui m'insultez quand vous me dites
tout.
Je rigole. Non, je suis maire, je sais bien que les choses sont un peu plus compliquées. J'ai appris en 8 ans à la tête d'un exécutif, même si c'est une petite ville de 80 000 habitants. Vous savez bien que le réel, il est plus compliqué que les concepts à manier. Et puis je déteste chez moi... qu'un certain nombre de mes opposants disent non à ce que je dis uniquement parce qu'ils sont mes opposants, je ne vais pas être aussi débile. Enfin, je ne sais pas, moi, sur ce qu'il a fait, j'en sais rien, qu'est-ce que je pense, sur le pass sanitaire, je l'ai beaucoup critiqué au début de la crise parce que je pensais qu'ils expliquaient que les masques, ça ne servait à rien, simplement parce qu'ils n'en avaient pas, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Mais après, le pass sanitaire, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'étais pour la vaccination obligatoire. Ce n'est pas parce que c'est le chef de l'État qui le dit que je vais dire que c'est une...
Un opposant lucide.
Non, mais j'essaie juste d'être un peu moins débile que le traitement qui m'est réservé de temps en temps. C'est pas parce que les gens pendant des années, dès que je disais quelque chose, les gens ils disaient non avant même que j'ai fini ma phrase. Et puis sur l'Ukraine, vous savez, moi je suis un primate dans la vie, mais d'une simplicité incroyable. Je me dis, voilà, il est chef de l'État. J'ai pas honte qu'il soit chef de l'État. Il tient face à Poutine,
par exemple, là,
sur la scène internationale.
Vous connaissez des qualités dans la gestion de la crise.
Ben oui, bien sûr. Et puis je me dis, est-ce qu'il y en a un de tous ceux qui sont là qui serait mieux que lui à sa place?
Peut-être celle que vous soutenez. Sinon,
sur ce terrain-là, non.
Très
sur
bien.
Ce terrain-là,
donc,
non.
Sur la politique étrangère et les affaires du monde, Marine Le Pen n'est pas capable.
Non. Enfin, attendez, mes amis, ils ont tous été pro-russes. Attendez, c'est pas possible. Et il le redeviendrait demain si la guerre était terminée. Je trouve ça insupportable. Peut-être parce que je viens de Reporters Frontières. Moi, mes copains journalistes en Russie, ils en prennent plein la gueule. Ce qui me fait dire, d'ailleurs, de temps en temps, même être critique par rapport à M. Macron. Quand il décide d'interdire les médias russes, vous savez, RT
Sputnik.
Et Sputnik, D'abord, personne ne les écoute. Alors, on va se calmer avec ça.
Ça, surtout que c'est... Bah, si, ils avaient une certaine audience.
Enfin, ça va, une certaine audience. Bah, tu as trois lapins de Garenne qui les écoutent. On va se calmer avec ça. Je finis juste. Mais pourquoi j'étais contre? Parce que j'ai été 20 ans le patron de Reporters sans frontières et je sais que c'est le meilleur argument qu'on donne à Poutine pour qu'il s'en prenne à nos copains là-bas. J'essaye de faire de la politique pas différemment. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais en étant... N'ayant pas... tout de suite, cette espèce de, vous savez, d'attitude pavlovienne qui fait que quand c'est les gens qui pensent pas, qui sont pas du même bord que toi, ils ont tort. Non.
Donc la Marine Le Pen est pavlovienne.
Sur ça, oui. Non, mais là, ça va plus loin. Je veux dire, la droite de la droite, pour certains, l'extrême droite, je veux dire, ils aiment cette espèce de virilité de Poutine, ce nationalisme et tout ça.
Ouais. Attendez. Robert Ménard, vous allez me trouver terre-à-terre. Je vais vous poser directement la question ce matin. Vous êtes un soutien de Marine Le Pen. Votre temps de parole, il est compté pour Marine Le Pen. Oui. Donc on vous entend quand même, c'est un soutien avec beaucoup de nuances et d'indépendance.
Mais moi je le dis à Marine, parce que de temps en temps je me dis, quand mon temps de parole est pour elle, elle doit de temps en temps se retourner dans sa couche. J'en ai parlé avec elle. Je suis aujourd'hui... Attends, qui en dehors de son parti la soutient? Comme qui fait de la politique un peu au niveau national?
Vous, son seul ralliement?
Mais non, mais moi je ne suis pas son ralliement, je ne suis pas rallié à elle. On ne s'est pas parlé pendant 3 ans avec Marine Le Pen, tellement elle m'a exaspéré, c'était réciproque. On se reparle depuis 1 an maintenant, je trouve qu'elle change. Enfin, attendez, là aussi,
est-ce que vous changez?
Mais oui, bien sûr que je change. Vous changez pas, vous. Marine, elle fait une meilleure campagne qu'il y a 5 ans. Elle est moins sectaire qu'il y a 5 ans. Elle s'est interrogée sur un certain nombre de choses. Avant, tu lui disais un mot, c'était avec elle ou contre elle. Tu pouvais pas critiquer sans devenir un ennemi. Aujourd'hui, elle est pas comme ça. Moi, j'ai des choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec elle. Mais quand même, elle a changé dans le bon sens.
Il y a 2 ans, je crois, j'espère ne pas me tromper sur la date, vous avez publié un petit ouvrage à la Nouvelle Librairie, je crois, Thérapie de choc. Vous disiez que la France a besoin d'une thérapie de choc, une vraie rupture. Est-ce que Marine Le Pen porte aujourd'hui, malgré vos désaccords avec elle, cette thérapie de choc que vous souhaitez pour la France?
Je suis pas sûr que le mot thérapie de choc ait été le bon mot.
Mais c'était bien le titre de votre livre.
Oui,
bien.
Mais attendez, je peux avoir écrit des conneries. Attends, si c'est ce que vous voulez me dire, je vous le dis.
Non,
vous en écrivez beaucoup, mais vous trompez jamais. Je rigole, ça va, c'est rien.
Je prétends pas ça, je dis pas que vous écrivez.
Voilà, c'est la même chose.
Mais permettez-moi, au-delà du plaisir du jeu de mots, vous dites thérapie de choc, vous proposez un problème de rupture,
oui,
très mais clairement. Est-ce qu'elle porte une rupture, Marine Le Pen, pour
vous? Elle porte une rupture. Mais elle le porte en faisant attention aux gens. Moi, ce que je ne supporte plus chez Eric, c'est une espèce de dureté, une dureté que tout ce courant politique, Éric Zemmour, porte. Je me suis amusé parce que je me suis dit, je vais avoir des trous de mémoire. J'ai listé tous mes désaccords avec Éric.
Avec Éric Zemmour?
Avec Éric Zemmour. Mais je me dis, je ne voterai pas pour lui. Et si Marine demain, elle faisait des concessions, je le lui ai dit, donc je ne dis pas des choses ici que je ne lui ai pas dit. Si elle faisait des concessions à Éric sur ces désaccords-là, ce sera sans moi.
Salut, ce qu'on va faire. Attendez, Robert Ménard, dans quelques instants, vous nous direz, c'est intéressant d'avoir cette liste de
désaccords. Non, vous avez compris, parce que c'est
un
trou de
mémoire. Je voudrais rester, puisque vous avez démarré cette émission par cela. Vous faites partie de la droite de la droite. Certains disent extrême droite. En tout cas, le président candidat qualifie ainsi ce champ du paysage politique et il se pose aujourd'hui comme le rempart. Est-ce que cet argument que l'on entend déjà depuis des années, non, vous dites déjà non de la tête?
Mais c'est insupportable, madame.
C'est insupportable.
Un rempart, pourquoi? Des gens comme moi, on menace quoi? Moi, je suis élu avec près de 70% des voix dans ma ville. Je suis le maire d'une ville de cette importance, le mieux élu de France. Je suis moins légitime que ces gens qui voudraient construire un mur. Mais écoutez, attendez, il n'y a pas que lui. Enfin, la droite classique, elle a construit un mur. Enfin, c'était dès qu'il discutait avec moi. Moi, je l'ai dit à des gens proches de M. Macron. J'avais l'impression que les ministres qui viennent, ils s'arrêtent à Montpellier et après, ce serait, vous savez, le règne du fascisme. On ne va pas jusqu'à Béziers parce que c'est un problème. Qu'est-ce que c'est ce mépris? Moi, je suis méprisant avec personne. Alors, je veux juste qu'on respecte l'élu que je suis et qu'on discute sur le fond.
Mais ça veut dire, Robert Ménard, que si on va vers un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen au second tour, ce mur, on va dire, antifasciste que certains veulent dresser, pour vous, il est nul et non avenu?
Il fonctionnera plus. Ça, c'est le seul service dans cette histoire où il y en a deux qu'Éric aura rendu. Un, c'est qu'il aura rendu plus audible le discours de Marine Le Pen en montrant qu'on pouvait être encore plus dur et plus à droite que Marine Le Pen. Et deux, qu'un certain nombre de gens qui n'auraient jamais voté Marine Le Pen, qui vous disent qu'ils vont voter Éric Zemmour. parce que Marine Le Pen était à droite et Éric était moins à droite. Comment tu peux entendre ce raisonnement-là? Mais au fond, qui le disait, parce qu'ils veulent pas voter pour un Le Pen, parce qu'ils veulent pas voter comme leur femme de ménage vote. C'est un putain de position de classe derrière tout ça. Mais bien sûr, il y a un mépris de classe par rapport à Marine Le Pen, évident. Mais ça, Éric, il aura eu le mérite, pardon pour ma grossièreté, il aura eu le mérite de casser ça.
C'est et que, mépris de classe vis-à-vis de la candidate Marine Le Pen.
Qui d'Éric ?
Oui.
Et de son électorat. Je le cite pour ne pas dire n'importe quoi. Le Pen a un électorat d'ouvriers, de petits employés, ils n'ont pas la même sensibilité à la guerre. Mais je t'en foutrais. Ils n'ont pas la même sensibilité à la guerre. Et Éric Zemmour et ses copains, ils ont accueilli chez eux combien de réfugiés ukrainiens ? Chez moi, qui prête sa chambre ? Qui prête ? Qui dit, tiens, mes enfants, ils sont à la fac maintenant, ils peuvent dormir à la maison. Robert qui Mélard, le fait ? Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas. Oui, c'est du mépris de classe.
Mais vous l'attribuez à quoi, ce mépris de classe de la part d'Éric Zemmour ? Vous l'attribuez à
quoi ? Mais parce que les gens qui l'entourent, parce qu'il est, ils ont quitté ce monde, ce qui est incroyable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient... Des fois, tu as des retournements dans la vie, qui vient d'un milieu
mais
plus populaire.
Il le met en avant, et il dit qu'il n'a pas quitté ses origines lui-même. Donc,
et quand tu écris ça, tu as quitté quoi, ça ?
Mais Robert Ménard, si je comprends bien, pas de rempart contre Marine Le Pen, donc on a un meilleur rempart contre Éric Zemmour, s'il le faut, de votre point de vue. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une forme de caractère des droites irréconciliables entre vous et Zemmour aujourd'hui ?
Éric a...
Êtes-vous irréconciliable ?
A violé, je cherchais le mot, un certain nombre de lignes rouges qui sont, à mes yeux, inacceptables. Je ne suis pas de ce monde-là. Je ne suis pas de cette dureté-là. Quand je suis dans ma ville, dans les quartiers, vous savez, on a une ville là où il y a beaucoup de politique de la ville, vous savez, de quartiers de la ville, vous avez compris, des quartiers difficiles. Quand hier matin, je suis dans le quartier où j'ai passé mon adolescence, qui s'appelle le quartier de la Devèze, où il y a aujourd'hui 80% de gens issus de l'immigration, dont plein de femmes voilées, madame. Je ne suis pas pour le voile, mais jamais, jamais je refuserai un selfie à une dame. Et j'en fais des dizaines.
Bien, vous faites référence, je le précise, à une photo qui a été prise par Marine Le Pen au côté d'une
femme voilée. Oui, il a montré de
voilée, et Éric Zemmour a vertement réagi.
Mais enfin, attendez, il ne faut pas confondre l'immigration et les immigrés. Enfin, attendez, moi, j'ai passé ma vie en Afrique pour reporter à ce frontière. Vous croyez que je ne rentrerais pas si j'étais burkinabé de façon illégale en France ? Mais je le ferai pour mes enfants sans hésiter.
Est-ce qu'Éric Zemmour est extérieur au périmètre républicain pour reprendre la formule
pas
classique ?
Non, je ne vais pas dire ça.
Démocratique ?
Non, mais alors je ne suis pas de ce classicisme-là. Non, il est d'une dureté, d'une insensibilité, d'une radicalité dont on n'a pas besoin. C'est assez dur le monde aujourd'hui. Dans ma ville, qui est une ville pauvre, où les gens ont tant de mal, pas que chez moi, mais chez moi, je les vois parce que je suis leur mère, à payer le plein d'essence, à faire un certain nombre de courses et tout. Tu vas dans le sens des gens, tu les câlines, tu divises pas encore un peu
Robert
plus,
Ménard.
Tu jettes pas de l'huile sur le feu.
On va marquer une pause.
C'est irréconciliable.
On l'a entendu, irréconciliable. On va marquer une pause parce que vous avez, sur le diagnostic, c'est une chose, mais qui a les solutions maintenant ? Parce que vous dites image adoucie pour l'une, Marine Le Pen, très dur, radical pour Éric Zemmour. Et pour vous, qui a les solutions pour le pays ? On marque une pause et on en parle.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et avec notre invité, le maire de Béziers, Robert Ménard, dont j'ai dit en début d'émission qu'il est soutien de Marine Le Pen, et j'ai bien fait d'ajouter en toute indépendance, parce qu'on l'entend cette liberté. Robert Ménard, on l'entend parce que vous dites que Marine Le Pen n'est pas tellement crédible sur le plan international. D'Éric Zemmour, vous dites qu'il a une radicalité qui vous heurte. On l'entend, on le sent dans certains domaines. Finalement, vous reprochez beaucoup à ceux qui pourraient être proches idéologiquement de vous et très peu à Emmanuel Macron. Je ne cherche pas à vous classer, j'essaie de comprendre quel est aujourd'hui votre cheminement politique.
Non, d'abord, vous me posez des questions sur mes amis, j'essaye d'y répondre, de répondre à vos questions.
Vous êtes plus dur avec vos amis qu'avec vos opposants politiques.
On l'est toujours. Moi, j'attends plus de mes amis que de gens avec qui je suis plus distant.
En campagne électorale, c'est plus rare.
Oui, mais d'accord. Mais moi, je suis. Oui, peut-être, mais c'est peut-être ce qui fait que je suis pas comme d'autres, peut-être. Non, je n'ai pas envie, parce qu'on est en campagne électorale, je ne suis pas le fan club de Marine Le Pen, et je ne suis pas militant de son parti, et je n'ai aucune responsabilité dans sa campagne. Donc, j'en parle librement. Et en même temps, je dis que je voterai pour elle. Je voterai pour elle dimanche prochain, donc ça ne remet pas ça en question. Mais j'ai envie d'une autre droite, vous savez. Là, on a une droite qui est repliée sur elle-même, qui est rabougrie, qui n'a pas de souffle, qui est toujours passéiste. C'est tout ce que je n'ai pas envie.
Mais là, pourquoi vous votez pour elle plutôt que pour Emmanuel Macron?
Comment ?
Pourquoi votez-vous pour Marine Le Pen plutôt que pour Emmanuel Macron ?
Quelles sont vos lignes rouges avec Emmanuel Macron ?
Pour des propos comme il tient hier sur l'extrême droite qui serait, je ne sais pas quoi, une maladie de la France. Et parce qu'il y a deux questions sur lesquelles je pense qu'ils sont les deux vrais trous noirs de son mandat, c'est la question de l'immigration. Même si je précise, moi je ne suis pas de ceux qui parlent d'immigration zéro, ça n'a juste aucun sens, ni pratique, ni théorique, ça n'a aucun sens, sur ça et sur la sécurité, plutôt sur l'insécurité. Oui, c'est vrai qu'il a mis, il va vous le répondre, il va vous dire, moi quand je discute avec des macronistes, je me dis oui, mais on a créé 10 000 postes de policiers ou de gendarmes, c'est vrai. Et les 15 000 places de prison, elles sont où les 15 000 places de prison ? Et quand vous êtes dans une ville où il y a un tribunal et des magistrats vous disent, mais écoutez, de toute façon, où on veut les mettre les on va les mettre où les gens ? Quand on veut les condamner, c'est ça.
Donc moi, pour l'aspect régalien, vous le retrouvez chez Marine Le Pen, et pour l'aspect plutôt conduite des affaires du monde, peut-être et même interne, vous le retrouvez chez Emmanuel Macron.
Je trouve qu'il y a des qualités chez les uns et les autres. Mmh. J'essaie de ne pas être manichéen. Mais c'est vrai que les périodes électorales, ça ne pousse pas à ça. Puis la France, au niveau des débats, c'est toujours une espèce de guerre civile qu'on se ferait. Moi, peut-être parce que j'en sais quelque chose, des vraies guerres civiles, j'ai juste pas envie de ça. J'ai envie, quand M. Macron dit un truc positif... Qu'est-ce que ça m'enlève de dire que c'est positif ? Même en période électorale, est-ce qu'on est obligé d'être absurde ? Et Marine Le Pen, quand sur l'immigration, elle a changé, elle est moins radicale.
Dans les mots ou dans les faits ?
Non, je pense
qu'elle
a vraiment...
C'est pas seulement une image radoucie, comme certains
le
disent.
Non, c'est pas qu'une image. Honnêtement, c'est pas qu'une image. Je pense que ce débat calamiteux, qui s'était, vous vous rappelez, dans l'entre-deux-tours, on l'a tous en tête. Ouais. Je veux dire, tu peux ne pas t'en relever de ça. Elle aurait pu ne jamais... Je pense qu'elle emporte des cicatrices, je vois, pour en avoir discuté avec elle. C'est douloureux et tout, mais elle s'est améliorée.
Vous lui reconnaissez... Bon, le mot résilience, il ne faut peut-être pas l'utiliser parce que vous parlez des guerres, faire attention, mais une résistance. Vous avez parlé de ce débat. Il y a eu les trahisons qu'elle a connues, y compris dans son cercle le plus proche, le plus intime, familial, de tout ça. Elle s'est relevée, elle en a fait une force, selon vous ?
Elle a appris. Aujourd'hui, elle a une dimension plus importante. Elle est capable d'écouter sans...
Pourquoi pas de gagner, selon vous ? Parce que vous ne croyez pas en la victoire.
Non, je pense que c'est, j'allais dire, un trou de souris. Là, au vu des sondages de ce matin, tu te dis que la souris, elle pourrait être un peu obèse, le trou pourrait être plus gros et on passerait quand même. Je veux dire, oui, il y a quelque chose qui se joue là. Alors, je ne sais pas, de la part de M. Macron, s'il le pense ou si, vous savez, il a peur qu'il n'y ait pas assez de gens qui aillent voter pour lui. Et donc, il crée...
Édouard Philippe qui dit, attention, Marine Le Pen peut gagner. Vous y voyez de l'artifice pour mobiliser.
Mais ça en est insupportable. Je pense que ces gens-là sont suffisamment intelligents pour ne pas nous faire le coup, c'est de l'épouvantail, attention. Qu'est-ce que c'est le fascisme qui va arriver ?
Vous ne croyez pas qu'elle peut gagner ?
Je pense que ce sera très difficile.
C'est un soutien sans espoir.
Mais non, attendez, sinon je ne la soutiens pas du tout. Je pense qu'il y a un espoir. Mais encore une fois, je n'ai pas des militants que je dois rassurer tous les matins. Je ne fais pas un meeting dont on parlait tout à l'heure. Donc je ne me sens pas obligé de raconter des cracks. Ce sera très compliqué. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui encore dans la classe politique, vous verrez la gauche entre M. Macron et Marine Le Pen, quoi qu'ils en disent, ils finiront par choisir M. Macron.
Vous dites que vous ne la soutiendriez pas, Marine Le Pen, si elle devait faire certaines concessions qui pour vous sont des lignes rouges à Éric Zemmour. C'est quoi ces concessions qu'elle pourrait faire ?
Un meeting commun, par exemple.
Ah, mais je lui ai écrit. C'est hors de question.
Si un meeting commun entre les deux.
Un meeting commun, je pense qu'elle ne le fera jamais. Si un meeting commun, là, après tout ce qu'il a dit... Évidemment, je ne vais pas dans les meetings.
Éric Zemmour en a parlé. Hein.
Ah oui, il peut en parler. Si elle y allait, pour moi, ce serait une rupture.
Elle doit choisir entre Ménard et Zemmour si elle veut construire sa coalition de deuxième tour.
Honnêtement, est-ce que je vais répondre oui à ça ?
Mais j'espère que oui, c'est une vraie question.
Mais vous posez
des lignes rouges.
Non, c'est pas entre Ménard et Zemmour, c'est pas un truc personnel. C'est entre une attitude réaliste, raisonnable. Attends, tu veux être chef de l'État, tu veux pas être responsable d'un parti. Là, on parle plus de se faire élire à la tête d'un parti ou d'avoir un bon score à l'opposition dans une élection. Il s'agit de gagner les élections, d'être à la tête de la puissance, je sais pas, la 5e ou 6e puissance du monde. Bah, moi, la France, je lui attache de l'importance.
Il faut des éléments qui ne sont pas soi.
Oui, mais tu vas peut-être pas aller chercher Ménard. de ce côté-là
de l'identité politique. Essayons d'être nous-mêmes dans nos questions claires pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Oui. Vous êtes un homme de droite. Vous rejetez tout réflexe pavlovien de critique, etc. Vous avez cité Marine Le Pen, Éric Zemmour, Emmanuel Macron. Je m'étonne pour un homme de droite comme vous, vous n'avez pas cité du tout Valérie Pécresse. Voilà une femme plutôt solide sur les aspects régaliens, dont on ne s'inquiète pas de la manière dont elle conduirait les affaires du monde. Pourquoi vous ne la citez pas du tout?
Je l'ai dit depuis des semaines, contrairement à mes amis, qu'entre M. Macron et Mme Pécresse, je choisirais Mme Pécresse. Mais en même temps, je regarde la campagne pitoyable qu'elle fait. Enfin, je ne sais pas, moi je ne la connais pas, donc j'en connais plein, mais elle, je la connais plein parce que j'étais journaliste, et j'en ai interviewé plein et tout. Je ne la connais pas du tout, je n'ai jamais eu affaire à elle. Oui, je ne sais pas. Est-ce que j'ai tort de penser que la forme a ce point d'importance? Je veux dire, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai retenu, je ne suis pas le seul, de ce que dit Mme Pécresse, rien. C'est quand même un vrai problème.
Vous avez le don de dire les choses que vous pensez, en tous les cas.
Je ne lui en veux pas personnellement. Tout à l'heure, vous recevez M. Retailleau. C'est un des types de droite qui m'impressionne le plus parce qu'il a une espèce de mécanique, de rigueur dans sa tête. J'en parlais avec Emmanuel, ma femme, qui est députée, c'est un type qui est capable de parler 40 minutes sans une note en essayant d'avoir, je sais pas, un vrai raisonnement et tout. C'est un type intelligent.
Donc il y a des gens de qualité un peu partout. Mais à la fin, où est-ce qu'on va retrouver Robert Ménard? Il sera où, finalement, au soir du premier tour à 20h02, comme on dit?
Vous savez, vous serez comme citoyenne, je parle pas comme la journaliste.
Je suis toujours à ma place, peut-être quelques temps, ici, je ne sais pas ce que l'avenir nous dira, mais vous, en tant que dans votre parcours politique, vous ne savez pas.
Je sais pas. Il y a une recomposition la droite, ça va être radical.
Mais qui va mener cette recomposition?
Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de la mener.
Il n'y a
personne. Qui va la mener aujourd'hui? Marine, je pense qu'elle aura du mal. Marine Le Pen, elle aura du mal, si jamais elle était battue, quand même, à repartir et tout. Qui? Éric. Mais Éric, j'attends qu'il gère ses 130 000 militants. Ça va l'amuser à peu près 15 jours et on en reparlera après. Madame Pécresse, tu peux pas dire à la suite de cette campagne qu'elle
donc
va...
Donc c'est Emmanuel Macron.
Mais j'en sais rien.
Permettez-moi la question. Et je vous prends au sérieux. Vous dites, si Marine Le Pen fait des concessions à Éric Zemmour entre les deux tours, vous renoncez à soutenir Marine Le Pen. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pourriez soutenir Emmanuel Macron?
Non, simplement, je ne soutiendrai pas.
Personne.
Je ne soutiendrai pas quelqu'un qui dirait que l'islam, c'est la même chose que l'islamisme, qui traiterait les femmes comme il les traite, qui refuserait de recevoir, parce qu'au début, il l'a dit, les réfugiés ukrainiens, qui refuse de dire que M. Poutine est un dictateur, ce qu'elle dit aussi d'ailleurs, mais un démocrate autoritaire. Vous voulez que je vais sur le Bataclan, qui va au Bataclan et qui trouve rien d'autre à parler que de monsieur...
Monsieur Poutine, même le président le dit, mais on a compris, vos lignes rouges, elles sont très claires avec...
Sur les enfants handicapés, sur Pétain, attendez. Bien. Ça va, ça suffit.
La liste est longue, mais qui aujourd'hui... Vous êtes ça fait longtemps que vous faites aussi de la politique, du journalisme, vous avez vu les deux aspects, Robert Ménard. Est-ce que vous croyez qu'il faut réformer la France ou sauver la France? Finalement, c'est ça la vraie question. Est-ce une question de réforme ou une question plus civilisationnelle?
Attendez, j'ai entendu mes amis. En 2017, enfin, vous suivez l'actualité politique, en 2017, c'était la même rhétorique. 5 ans de Macron, la France ne s'en relèverait pas. Je peux vous trouver des citations d'eux. Aujourd'hui, c'est la même chose. 5 ans de Macron et la France meurt. Mais la France, elle est plus forte qu'eux. Mais la France, c'est une histoire. Mais la France, c'est la 5e ou 6e puissance du monde. Mais la France, elle est mieux que nos dirigeants. Mais la France, elle a plein d'espoir. Elle a un génie, elle a tout ça. Honnêtement, on arrête avec leurs bêtises. La France, elle vivra, elle supportera 5 ans, elle supportera 5 ans. Monsieur Mélenchon serait une autre paire de manches. Mais enfin, on n'en est pas là, Dieu merci.
On va retenir cet éloge à notre pays, à la France. On va vous remercier, Robert Ménard. Il est libre, hein, Robert Ménard.
Je suis libre, je ne sais pas. C'est peut-être un travers de journaliste qui me reste. J'essaye de répondre à vos questions sans précaution.
Je vous remercie d'avoir répondu avec franchise. Robert Ménard, merci encore d'avoir été le premier invité de ce grand rendez-vous. On va poursuivre cette émission, marquer une courte pause et recevoir celui pour lequel vous avez en tous les cas de l'admiration. Sinon, vous lui reconnaissez beaucoup de qualités. C'est le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, soutien de Valérie Pécresse. Tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous. Votre grand rendez-vous présidentiel à une semaine du premier tour se poursuit. Nous avons reçu en première invité le maire de Béziers, Robert Ménard, dont on a souligné l'indépendance dans son soutien à Marine Le Pen. Notre second invité est un soutien indéfectible pour l'instant, réel en tous les cas, sur le terrain et dans les médias de Valérie Pécresse. Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe LR au Sénat. On va vous poser la même première question qu'à Robert Ménard hier à la Défense Arena. Lors de son unique meeting, Emmanuel Macron a défendu son bilan, son action, ponctuant son discours de « nous l'avons fait ». Un président candidat fier de son bilan. Qu'en avez-vous pensé, Monsieur Retailleau ?
C'est un vrai comédien, c'est un homme de théâtre. On a dit que M. Zelensky était un comédien qui était devenu un président. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Il était président, il est devenu un vrai acteur de théâtre. Pourquoi je le dis ? Il a vanté son bilan. Mais quel est son bilan ? Sur le plan de l'ordre dans la rue, qu'a-t-il fait ? Son quinquennat, c'est 32% de violence physique en plus. Là aussi, sur tous les items, c'est l'explosion sur les agressions sexuelles, surtout les agressions contre les policiers, les gendarmes, sur l'immigration. Il n'y a jamais eu autant de flux migratoires en France. Il a même été le seul chef de l'État à élargir les conditions du regroupement familial. Sur l'école, je lui ai même entendu dire qu'il allait remettre les maths pour la terminale. Mais c'est lui qui les a supprimées il y a 3 ans avec la réforme du bac. Faut-il avoir perdu toute mémoire pour ne pas s'en souvenir ? Et puis la France est mal gérée. On est désormais, c'est la Cour des comptes qui le dit, en extrême vulnérabilité puisque en matière de déficit commercial, de déficit public, d'endettement, c'est la grande divergence avec l'Allemagne. On a pratiquement 114% par rapport au PIB d'endettement, l'Allemagne, c'est moins de 70%. Ça veut dire que la France se déclasse, qu'il y a un appauvrissement. Les Français le sentent. Pourquoi est-ce que le pouvoir d'achat revient en tête de gondole sur cette élection ? Parce qu'il y a le sentiment du déclassement, de l'appauvrissement. Il y a 20 ans seulement, le niveau de vie entre un Allemand et un Français était le même. Et aujourd'hui, c'est 5 000 euros. Oui.
Ce sont
de
des grands et vrais sujets, Bruno Retailleau. Alors, il faut faire attention, et surtout à une semaine du premier tour, à ne pas accorder une trop grande importance aux sondages. Malgré tout, ils sont une photographie à l'instant T. Comment expliquez-vous cette distorsion entre ce que vous décrivez et qui ne peut faire que mal aux Français qui aiment leur pays, si telle est la réalité, telle que vous la dites, et les sondages à l'heure actuelle qui placent toujours ce président candidat, malgré tout, loin devant ?
Il y a 2 explications. La première, attention, les sondages étaient, moi, candidat. Il y a moins d'un an, au régional, on prédisait que les Pays de la Loire allaient basculer à gauche. Et en réalité, on a mis plus de 12 points par rapport à notre compétiteur de gauche. Hervé Morin me disait qu'en Normandie, c'était de 15 points. Plus l'abstention est forte, plus les sondeurs se trompent. Puis il y a évidemment une autre raison, c'était l'Ukraine. C'était aussi l'application méticuleuse qu'a eu Emmanuel Macron à ne pas rentrer en campagne vraiment. Il a fait campagne d'ailleurs. Il a fait campagne avec le chéquier des Français depuis des mois et des mois au Sénat. On a établi un compteur depuis le mois de septembre sur ses promesses par milliards. On est à plus de 30 milliards d'euros. Mais en réalité, il a tout fait pour ne pas s'expliquer sur son bilan. Et c'est grave d'ailleurs dans cette campagne, parce qu'une campagne, la démocratie, c'est d'abord de rendre des comptes sur un bilan. Il n'a pas voulu, tout simplement parce qu'il aura sans doute un des pires bilans de la Ve République. Et puis aussi, le problème, c'est qu'une démocratie, c'est de s'engager, d'avoir un pacte avec la nation en étant clair sur les réformes. Qu'est-ce que vont retenir les Français de son projet ? Je ne le sais pas.
Puisqu'on évoquait les sondages à l'instant avec Sonia, comment est-ce que vous expliquez, en revanche, les faibles sondages de votre candidate, les faibles intentions de vote de votre candidate ?
J'explique d'abord parce que c'était une candidate du fond. Elle accordait beaucoup d'importance au projet, avec des mesures qui sont chiffrées, qui sont sérieuses. Cette campagne a fait disparaître, si j'ose dire, le sérieux. Et on est rendu à un point, je trouve, de pipolisation où les qualités pour gagner ne sont peut-être plus les qualités pour exercer le pouvoir. Et ça, c'est un
entre
vrai
la conquête
problème.
Et l'exercice, c'est
entre
différent.
La conquête et l'exercice du pouvoir. Il y a quelque chose de très symbolique. Elle m'a confié les 100 jours, d'ailleurs. Les 100 jours, c'est quoi ? C'est essayer de dire, on va y aller vite pour aller fort. Parce que quand on laisse passer les mois, les promesses s'envolent, il faut sortir de l'impuissance publique, donc profiter du tout début du quinquennat pour faire les vraies réformes. Et puis, il faut dire aux Français, désormais, la politique peut faire quelque chose pour vous.
Bruno
les
Retailleau,
engagements qu'on prend,
voilà
ils
ce qu'on va faire.
Suivis.
On vous propose de nous éloigner un peu des sondages, parce que cela peut fausser aussi. À une semaine du premier tour, essayons d'aller sur le fond. Votre électorat, plus que tout autre, est sensible au réflexe légitimiste. c'est le cas.
Absolument.
Bon. Donc, en cette période troublée de guerre, comment comptez-vous faire pour déjouer finalement ce réflexe qui tente à prolonger de nouveau le mandat d'Emmanuel Macron, même si peut-être certains de vos électeurs sont tentés par Valérie Pécresse?
Je pense que il y a une sorte de désescalade en Ukraine. On voit que les négociations commencent non pas à aboutir, mais pourraient un peu avancer. Et on le voit d'ailleurs dans vos propres journaux, où vous n'ouvrez plus systématiquement vos journaux sur l'Ukraine. Donc il y a une prise de distance. Et j'espère que dans cette prise de distance, dans cette dernière semaine, les gens reviendront à un certain nombre
de faits
objectifs.
Vous y croyez une semaine pour faire basculer
le bilan d'Emmanuel Macron, ouais. C'est la vérité. C'est la vérité et c'est le courage. Est-ce qu'Emmanuel Macron a proposé d'établir des quotas par pays, par métier pour l'immigration, changer la constitution pour bloquer l'immigration? Non. Est-ce qu'Emmanuel Macron propose de changer la justice pour avoir des courtes peines, des doubles peines, des peines minimales? Non. J'espère que les Français se rendront compte qu'en réalité, M. Macron parle. Régis Debray avait une phrase que je trouve merveilleuse. Il disait « moins ça peut, plus ça cause ».
Alors, il y a un thème en sciences politiques, s'appelons ça la conversation de la dernière semaine. C'est-à-dire, de quoi les électeurs parleront-ils en se rendant aux urnes? Est-ce que le scandale, ce qu'on appelle le scandale McKinsey, risque d'être le sujet sur lequel vous miserez en espérant faire basculer dans cette dernière semaine les électeurs?
Vous avez raison, il faut parler d'un scandale. C'est le Sénat qui l'a découvert. C'est un scandale dans la mesure où il y a un mélange des genres entre le privé et puis le public. C'est un scandale où on s'interroge sur la possibilité de retour d'ascenseur, puisque un certain nombre de cadres de McKinsey avaient travaillé d'ailleurs gratuitement, bénévolement, c'est leur droit d'ailleurs, pour la campagne d'Emmanuel Macron, y compris le directeur associé, M. Tajeddine, en 2017. Et puis on voit que, voilà, ils ont été bénéficiaires de contrats publics, sans d'ailleurs payer pendant pratiquement 10 ans d'impôts sur la société. Donc il y a quelque chose de grave, mais il y a quelque chose d'encore plus grave, vous voyez. C'est en réalité la conception et la gestion calamiteuse de l'État. Au moment même où Emmanuel Macron veut mettre à terre la haute fonction publique qui est reconnue pourtant dans le monde entier, eh bien, plutôt que ces grands commis de l'État dévoués au service public, à la mission de service public, ils préfèrent des cabinets étrangers, ils préfèrent des cabinets étrangers, ce qui pose d'ailleurs une question en matière de souveraineté. Puisque ces cabinets ont accès,
Les Allemands font appel à des cabinets du même genre,
dans
des proportions beaucoup plus importantes qu'en France.
Mais je m'en fiche, moi je suis français. Moi je suis
français. Enfin, c'est assez courant.
Moi je suis français, je pense que l'État s'est bureaucratisé. Je veux donc un État qui soit moins tentaculaire, mais qui soit sur les sujets régaliens.
Les ministres ont fait une conférence de presse, Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt, pointant également, c'est intéressant de vous entendre tous, quel que soit votre bord politique, pointant le fait que la droite a eu recours à ces cabinets, à ce même cabinet McKinsey. Que vous le connaissez aussi bien.
Les collectivités locales, bien sûr, et parfois c'est nécessaire, pour des questions...
Les pays de la Loire font
mais bien sûr, mais ça change tout, Nicolas Barret. Mais ça change tout. Je vais vous expliquer pourquoi ça change tout. D'abord, entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu un doublement du recours, voilà, qui a été caché, puisque Mme de Montchalin nous disait « Oh, il y a 141 millions d'euros au départ, et ça passe à 1 milliard, c'est pas louche, ça ?» Ensuite, une collectivité, c'est pas un État, je vous parle de souveraineté. Quand la région des Pays de la Loire, par exemple, sur des questions de mobilité, fait travailler des spécialistes de la mobilité, ben oui, quand on n'a pas les compétences. Mais quand vous avez, au cœur de l'État...
C'est pour ça que les dépenses ont augmenté aussi, vous
quand
le savez
vous
très
avez
bien,
au cœur de l'État,
expliqué dans le rapport du Sénat.
Quand vous avez au cœur de l'État, pour des questions qui sont graves, régaliennes, sur notamment les choix décisifs en matière de santé publique. À chaque fois, dans les crises où vous avez ce cabinet qui propose, y compris des solutions, vous avez une dépendance. Et ce que je veux vous dire,
vous
c'est
avez
que...
1% de part de marché, vous dites, ce cabinet...
Oui, mais Nicolas Barré, c'est pas à vous que je vais apprendre
c'est
que...
C'est le rapport du Sénat qui l'écrit.
On a la fonction publique la plus pléthorique de tous les pays d'Europe. Et en plus, on a recours pour 1 milliard d'euros à des cabinets privés. Ben pour moi, vous voyez, ça c'est de la mauvaise gestion.
Si on
gestion.
Vous entend bien, ce n'est pas cela seulement que vous semblez reprocher à Emmanuel Macron, puisque vous avez commencé votre argumentaire, Bruno Retailleau, en affirmant qu'il pourrait y avoir un éventuel retour d'ascenseur. Sur cela, vous n'avez pas le début d'une information.
On peut s'interroger
sur
cette question-là.
Simplement.
Voilà.
D'accord, très bien.
J'ai connu des temps et des campagnes où le PNF... avait le doigt sur
je
la gâchette
rappelle,
de façon beaucoup plus rapide.
C'était ma question, parce que vous avez accompagné...
ma réponse, vous voyez.
Non, mais c'est la question qui arrive. Vous avez accompagné François Fillon jusqu'au terme de sa campagne, avec, on sait ce qui s'est passé évidemment à la précédente élection. Là, on est dans un tout autre cadre. Est-ce qu'il faut parler d'un scandale? Vous reprenez cela à votre compte, mais moi je vous interroge sur l'effet politique. Est-ce qu'il peut y avoir un effet politique C'est quand même le Sénat qui a parlé de tout cela. Qu'est-ce que vous espérez de ce qui est en train de se passer?
J'espère rien. Le travail du Sénat, et la Macronie ferait bien de s'en souvenir, c'est qu'une démocratie, ce n'est pas le suffrage universel uniquement. Sinon, M. Poutine ou M. Erdogan seraient des grands démocrates. Une démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Voilà. Et le Sénat fait son travail de façon rigoureuse. Rien de ce qu'ont dit les ministres lors de leur conférence de presse a permis a permis de contredire les allégations du rapport qui est excellent, qui est un rapport bipartisan, gauche et droite d'ailleurs. Première chose. Non, la portée politique, si vous voulez, c'est que souvenez-vous des promesses de 2017. Souvenez-vous de la République exemplaire, transparente. Mais si c'est ça, la République exemplaire, j'espère que les Français sauront faire le tri dans les urnes dimanche prochain.
Mathieu Bock-Côté.
Alors, un reproche souvent fait au Sénat ces derniers jours, c'est que le Sénat verserait, alors c'est le contre-pouvoir, mais il verserait dans une forme de rhétorique populiste. C'est le terme souvent utilisé. Parce que finalement, il cherche à discréditer les institutions de la République, et notamment le président de la République. Est-ce que finalement, le Sénat tomberait dans ce piège sans même s'en rendre compte?
Ça vous fait sourire, Romain.
Ça fait beaucoup rigoler quand on connaît le Sénat, qui a une très grande rigueur. En réalité, ces commissions d'enquête ont été décidées il y a des mois et des mois, elles arrivent puisqu'elles arrivent à la fin de la session parlementaire. C'est pour ça qu'elles arrivent aujourd'hui. Il n'y a aucun calcul et il y a beaucoup, beaucoup de commissions d'enquête dans tous les sens. Et parfois, il y a eu des condamnations, y compris, je me souviens d'un professeur de médecine qui avait fait un faux témoignage devant une commission d'enquête. Oui. Ça ne s'est pas su beaucoup. Voilà. Non, on fait un travail sérieux. Et pour moi, le Sénat, c'est vraiment une garantie de démocratie pour les Français. C'est important que, on a bien vu la tendance d'un pouvoir très solitaire, très arrogant, très jupitérien d'Emmanuel Macron. Mais moi, je pense qu'une institution comme le Sénat, qui est une institution très sérieuse, où tous nos rapports sont souvent frappés au coin du travail et du sérieux, je pense que c'est important de dire aux Français, écoutez, non, dans une démocratie, il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs, mais on n'est pas un anti-pouvoir, vous savez. Bien. On vote plus de textes que nous propose le gouvernement de M. Macron. Alors évidemment, en les remaniant, en les amendant, qu'on en refuse. Donc on n'est pas dans, si j'ose dire, une opposition systématique et pavlovienne, pour reprendre l'un de vos termes.
On va marquer une courte pause et se retrouver, Bruno Retailleau, parce que nos questions maintenant vont porter spécifiquement, évidemment, sur la campagne de Valérie Pécresse, avec un risque aussi d'effacement de la droite, disent certains. Qu'en pensez-vous? Une courte pause et on se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et notre invité, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, soutien de Valérie Pécresse. Et bien sûr, il y a un soutien. Et quel soutien qui manque? Vous nous voyez déjà venir, monsieur Retailleau. Évidemment, depuis des semaines, on en parle et il ne viendra pas. Alors, on va vous poser de nouveau la question. En quoi est-ce que ce n'est pas un désaveu quand même qu'un ancien président de la République, avec autant de poids et d'influence sur sa famille politique, ne soit pas présent tout à l'heure au meeting de Valérie Pécresse?
C'est son choix. Moi, j'aurais préféré, je lui avais dit d'ailleurs il y a quelques semaines, mais c'est son choix. Il faut d'abord que Valérie fasse ses preuves et qu'ensuite elle puisse aller...
Il reste peu de temps, si je puis dire, là.
Pardon ?
Il reste peu de temps pour faire ses preuves, je crois.
Non,
que c'est...
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle doit tracer. Oui. Je me suis mal exprimé. Ah. Elle doit tracer sa route.
Est-ce qu'elle aurait dû couper ce cordon, si je puis dire, un peu plus tôt ? C'est-à-dire, bah, écoutez, il ne me soutient pas, c'est ainsi, je fais ma route.
Elle fait sa route, elle l'a déjà dit.
Elle a attendu longtemps, le soutien.
Elle faisait... Oui, mais... Quand vous êtes issu d'une famille politique, il y a une figure tutélaire, ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est normal que vous sollicitiez ou que, en tout cas, vous attendiez un soutien. Comment comprendre, puisqu'il ne la soutient pas, qu'il pourrait soutenir ce que je ne crois pas, ce que je n'espère pas, parce qu'il ne fera ni pour l'un ni pour l'autre.
Oui, mais vous savez que le non-soutien à Valérie Pécresse, oui, vaut soutien à Emmanuel Macron.
Il avait, lui, je me souviens, créé le ministère... de l'immigration, de l'identité nationale. Faudrait-il qu'il ne soit plus sarkozyste ? Voilà, pour soutenir quelqu'un d'autre que Valérie Pécresse. Et évidemment, il ne soutient pas Emmanuel Macron, je n'ose pas seule seconde l'imaginer.
Non, mais vous n'imaginez pas.
Allons jusqu'au bout. Comment est-ce que vous interprétez le fait qu'il ne la soutienne pas ? Est-ce qu'il attend quelque chose d'Emmanuel Macron et quoi ?
Non, je ne crois pas. Je pense que... Enfin, j'imagine, moi, que dans sa stature, il ne veut pas rentrer. Ça fait 10 ans. Voilà, qui n'est plus président de la République. Donc j'imagine qu'il a pris d'autres voies et qu'il n'a pas envie, désormais, à ce stade-là, de rentrer dans un débat public. Voilà, je l'imagine.
Alors, il n'est pas inimaginable que Valérie Pécresse ne soit pas au deuxième tour. Si la droite, pour une deuxième fois, n'était pas au deuxième tour de la présidentielle, est-ce que la droite risque la disparition?
La disparition, j'y crois pas un seul instant. Parce que dans la vie politique, dans la vie des idées, il y a des permanences. Et pour moi, j'ai jamais cru que Macron pouvait concilier, effacer le clivage droite-gauche. Sans doute que, et c'est ce que je pense profondément depuis des années, je pense que aussi bien la gauche, mais aussi la droite, nous n'avons pas fait un effort suffisant de renouvellement intellectuel de nos idées, de notre logiciel. Mais la droite, elle est là. Et ça n'est pas la
elle
même
est
chose.
Où non, pardon, elle est là, elle est où mais, certains mais la voient chez Emmanuel mais Macron, mais d'autres la voient chez Éric Zemmour. Elle est partout, sauf chez Valérie Pécresse, finalement.
Non, elle est chez Valérie Pécresse, et vous verrez. Encore une fois, il reste 8 jours, il reste une semaine. Tout peut se passer, la campagne va démarrer, et elle a le meilleur projet. C'est pour ça que je suis à ses côtés. D'ailleurs, un projet qui ressemble... Pas comme de goutte d'eau,
c'est
mais de, très, de façon très
vous
proche à celui de François Fillon.
Elle dit qu'elle a le meilleur projet, mais vous savez, en homme de droite, et vous savez très bien que la 5e République, c'est évidemment un homme, une femme et le peuple. Mais parlez-nous, elle, très bien, le projet, on l'a compris, vous avez travaillé, mais sur la candidate, qu'est-ce qui lui a manqué?
Moi, je pense que la candidate, elle a un discours qui est un discours qui est assez moderne d'ailleurs, très factuel, très concret et assez humble. Et dis-moi, mon problème, c'est de redresser la France. Et elle tient compte de notre expérience. La droite a un passé, mais parfois ça a été un passif. Parce qu'on n'a pas fait suffisamment. On n'en a pas fait trop peu, on n'en a pas fait assez. Et elle s'est consacrée pendant des mois et des mois à un projet méticuleusement préparé. Mais surtout, elle a dit, je vais le faire. Pour la première fois, on va faire ce qu'aucun autre gouvernement.
Tous
dans
disent
les 100 premiers
tout
jours,
le monde dit, on va faire.
Est-ce que son problème n'est pas que son projet ressemble plus à celui d'Emmanuel Macron qu'à celui de François Fillon, ce que vous venez de dire?
Vous voulez rire.
François Fillon voulait supprimer un demi-million de postes fonctionnaires.
Elle veut supprimer 200 000 fonctionnaires. Vous croyez que M. Macron veut supprimer un poste dans la fonction publique? Il ajoute même le cabinet McKinsey. Vous pensez que sur la justice, sur l'ordre...
C'est le même qui a parlé avec le programme d'Emmanuel Macron.
Vous pensez un seul instant que M. Emmanuel Macron veut établir des quotas pour réduire l'immigration, changer la Constitution, pour faire prévaloir la souveraineté nationale, la souveraineté populaire? Pensez-vous qu'Emmanuel Macron veut... faire en sorte qu'on quitte le laxisme judiciaire? Vous avez devant vous, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, un magistrat qui propose sur Internet sa fille de 12 ans, qui la propose à la prostitution. Mmh. Et, il écope de 2 ans de prison, dont un ferme. Il ne fera pas un jour en prison. Hein, il le fera avec un bracelet électronique chez lui. C'est lamentable. Eh bien, nous, on changera cette logique-là. On la changera. Emmanuel Macron, lui, il est prisonnier du « en même temps ». Parce que quand vous vous dites... et de droite et de gauche. Ben, tantôt, une petite mesure à droite, tantôt, une demi-mesure à gauche.
Il y a, dans cette présidentielle, une ferveur à droite. C'est chez Éric Zemmour. Il y a, dans cette présidentielle, une possibilité de gagner à droite pour certains. C'est Marine Le Pen. Est-ce que, de ce point de vue, c'est pas la part manquante, finalement, pour Mme Pécresse, c'est-à-dire ni la ferveur, ni la possibilité de gagner, en dernière instance, un vote de témoignage et de fidélité?
Je crois pas, parce que qu'est-ce qu'on voit, d'ailleurs, sur l'électorat d'Éric Zemmour, c'est que, petit à petit, il est en train de s'user. Il est en train de s'étioler. Et il s'étiole pourquoi? Il a fait de bons constats. Moi, je peux souscrire à des constats qu'a fait, évidemment, Éric Zemmour. Mais les bons constats ne font pas un bon chef d'État. Et il s'est laissé aller à un esprit de système, je crois, avec beaucoup de démagogie. Enfin, sur l'immigration zéro, on ne peut pas dire c'est l'immigration zéro, puis après, on verra au cas par cas. Ça, c'est du slogan. Et puis aussi, il y a un côté excessif, outrancier. L'islamisme, les réfugiés ukrainiens. Et ça...
Vous rejoignez ce qu'a dit Robert Ménard tout à l'heure.
Je n'ai pas entendu.
Sur cela, il a fixé certaines lignes rouges pour lesquelles il serait désaccord.
Non, mais je ne parle pas de lignes rouges. J'essaie d'expliquer simplement, puisque ça fait partie de cette question-là, pourquoi est-ce que aussi, chez Éric Zemmour, il y a une sorte de décrue dans son électorat. Moi, je pense qu'il faut faire campagne.
Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, autre qu'Adéro, avec lui. Un meeting à la hauteur de celui de François Fillon.
Regardez sur l'islamisme. Valérie Pécresse, elle est la seule. Elle est la présidente de région. Elle a interdit le burkini dans les piscines. Ça, c'est un acte qui est posé. Monsieur Macron et sa majorité au Sénat s'est toujours opposé, Nicolas Barré, pour vous donner une autre illustration de la différence. Quand on a voté l'interdiction du voile sur les accompagnatrices scolaires, il s'y est opposé. Quand on a voté l'interdiction du voile pour les hijabeuses dans le sport, il s'y est opposé. Nous, on pense que le sport, eh bien, les querelles religieuses, politiques, ça doit être mis de côté. C'est la charte de l'olympisme. Donc, il y a des différences, non pas de degré, je le dis à certains de mes amis politiques. La différence entre Emmanuel Macron et nous, ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature.
Très bien. Alors, on entend vos différences et on comprend qu'avec Valérie Pécresse, en tout cas, les choses seront faites, dites-vous. C'est votre principal argument. C'est aussi...
Et courageusement faites, croyez-moi.
Et en tous les cas, elle se bat comme les autres candidats. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu un traitement de défaveur? On l'entend de plus en plus, cette petite musique. Peut-être que c'est ce qui ressortira après aussi de la campagne. Je ne dis pas ce sont les médias, je dis même son entourage. Est-ce qu'elle a été suffisante? On vous voit, vous, ici, la soutenir. Est-ce qu'il y a eu un traitement que vous estimez déséquilibré, on va dire?
Je l'estime d'autant plus que je l'ai déclaré il y a quelques semaines qu'elle a eu un traitement de défaveur. Toutes les attaques médiatiques, politiques ont convergé vers elle. Pour une seule raison, c'est que...
De dire que les autres n'ont pas été la cible.
Bien sûr, mais elle a été quand même une cible pendant des semaines et des semaines d'attaques qui ont été convergentes, et elle a été la femme à abattre. Sans doute pour une raison, c'est que pour Emmanuel Macron, elle représentait le vrai risque d'être battue au second tour, et je pense aussi pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour, le risque de la crédibilité qu'elle opposait par son projet à leur projet à eux. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, il y a eu un régime de défaveur. Mais bon, dans une bataille politique, il faut tout prendre. Et je pense que les Français aussi veulent des hommes et des femmes politiques qui soient un peu cicatrisés,
oui, qui disent les choses. Vous, au soir du premier tour, avec, on va imaginer tous les scénarios, y compris celui qui semble, en tout cas, pour l'instant, le plus plausible, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, votre vote est... Évidemment.
Ça ne fait pas la première fois, Sonia Mabrouk, que vous tentez de m'extorquer une réponse sur le second tour. Je n'ai qu'une seule ligne. Je me bats, moi, et j'ai besoin de mon énergie, de mon enthousiasme pour le premier tour. L'élection présidentielle, ce n'est pas The Voice. Il y a deux mois, la question, c'était alors, si M. Zemmour est second tour, vous voterez Zemmour? Maintenant, c'est Mme Le Pen. Est-ce que vous voterez Le Pen ou Macron? Et demain, est-ce que vous voterez Mélenchon? Non.
Ma question, c'est s'il n'y a pas votre candidat candidat face à Emmanuel Macron.
Comment peut-on se battre? Attendez, ça suppose, croyez-moi. Croyez-moi, ça suppose un peu d'énergie quand même. De se battre dans une campagne électorale qui est quand même difficile, parce que justement, il y a
une
non-campagne.
Quand vous êtes tout seul, vous y pensez, vous savez bien que vous allez faire un choix. Donc, le dire publiquement ce matin, votre choix est déjà fait dans votre tête.
C'est mon tribunal intérieur, c'est ma conscience.
Mais le verdict est rendu dans votre tribunal intérieur?
Mais pas avec...
Est-ce que le verdict est rendu dans votre tribunal intérieur, alors?
Non, parce que je veux jusqu'au bout qu'on se batte, qu'on se mobilise, et je suis persuadé, parce qu'il va y avoir de l'abstention, qu'on peut bouger 2 ou 3 points. Donc la situation peut évoluer jusqu'au dernier moment.
Vous dites 2 ou 3 points. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ces 2 ou 3 points, dans la semaine à venir, ces 2 ou 3 points, vous les gagnez? Qu'est-ce qui peut faire basculer?
Tout ce qu'on a fait avant. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à un événement particulier. Je ne crois pas du tout à une mesure choc. Je pense que le sérieux de Valérie, et surtout cette rupture fondamentale, on a prévu de changer une constitution avec quelque chose de très intéressant pour rendre la parole au peuple, pour faire par exemple un référendum dès l'automne sur une grande loi de migration. Voilà, pour essayer de faire en sorte que notre démocratie, on essaie de la raccommoder, de la réparer. Eh bien, j'espère que les Français, dans cette dernière semaine, ils vont s'intéresser pas seulement au concours de beauté, quoique là-dessus, ils pourraient avoir des chances, mais aussi surtout au fond. Eh bien, j'espère que là, du coup, ils sauront distinguer le vrai du faux. Je pense qu'Emmanuel Macron est le candidat du faux. Il est en train de faire, d'ailleurs, campagne sur la dépouille de son bilan, sur la dépouille de son projet. On n'a pas parlé de la guerre, mais la guerre lui donne tort sur sa vision, sur ses décisions, des souverainetés énergétiques, alimentaires qui ont été amoindries, et le progressisme, cette espèce de vision... irénique, naïve de l'histoire, cette espèce d'individualisme alors qu'on a besoin de commun, là aussi battu en brèche. C'est ce que je veux dire ce matin, parce que je pense que c'est important de revenir à quelques perspectives fondamentales.
Et en tous les cas, les Français auront à choisir déjà dès ce dimanche, une semaine à peine. Merci Bruno Retailleau d'avoir été l'un de nos invités de ce grand rendez-vous. Je remercie évidemment mes camarades Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barret. Je vous souhaite à tous un bon dimanche sur nos antennes Europe 1 et CNews. Europe 1.